Nous sommes donc sous le regard du Seigneur. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. On n'a pas besoin d'une prédication, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'un bon enseignement, d'une théologie équilibrée, même si toutes ces choses sont excellentes. On a besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et je voudrais vraiment lire un texte, plusieurs textes avec vous. D'ailleurs, je vous demande de les noter pour les méditer chez vous. Je vous parlais du livre des Proverbes que vous pouvez méditer pour faire des cultes en famille. Mais là, ce sont pour vos cultes aussi personnels. Dans l'épître de Jean, il nous est rappelé une vérité qui est bonne à réentendre. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. C'est quelque chose d'important. Que nous nous souvenions, même si nous l'avons fait pendant les chants, que nous nous souvenions que Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Ce sont des textes qu'il est bon de relire. Il ne faut pas que nous doutions un instant de l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Cet amour a été manifesté. Un don spirituel nous rappelait que l'amour de Dieu a été prouvé. Dieu nous a prouvé son amour. Dieu nous aime. C'est quelque chose irrévocable. C'est quelque chose d'incommensurable. L'apôtre Paul dit qu'on doit chercher Dieu pour connaître, afin de comprendre la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, etc. L'amour de Dieu est incommensurable. On ne peut même pas se l'imaginer comment Dieu nous aime. On le sait par la conviction que nous avons suite au calvaire. On sait ce que Jésus a fait à la croix. On pourrait passer des heures et des heures à parler continuellement de l'amour de Dieu et relire les évangiles. Oh, je viens de me rendre compte de ce qui s'est passé quand Jésus a sauvé cette femme, quand Jésus a sauvé le brigand sur la croix, etc. On pourrait ne pas arrêter incontournablement de parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Vous êtes d'accord? Dieu est amour. Il vous aime. Personne sur les milliards de gens qui auront vécu sur la terre, personne au monde pourra se présenter devant Dieu et dire pourquoi ton amour ne s'est pas manifesté. Personne, toute langue et toute bouche sera fermée. Dieu est amour. C'est imparable. Je pourrais argumenter pendant tout le temps de ma prédication parce que c'est la vérité. Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Etc. Et nous sommes au bénéfice de cet amour, bien sûr, ce matin, si nous avons la joie du salut, je parle pas de la joie humaine. Vous avez la joie du salut? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, parce que ça ne peut pas ne pas sortir. Vous l'avez exprimé à haute voix ou à mi-voix, vous ne l'avez pas exprimé audiblement. Mais si vous avez la joie du salut, si vous avez le pardon des péchés, si vous avez la paix, tout cela qui est des conséquences de l'amour de Dieu, vous êtes les gens les plus heureux de la terre. Vous le croyez? Mais est-ce que vous le croyez ou c'est une façon de parler? Est-ce que vous croyez vraiment que les véritables chrétiens sont les plus heureux de la terre? Mais c'est pas des blagues. C'est impossible d'être heureux sans le pardon des péchés. Même le gars qui aurait la plus grande fortune, d'ailleurs c'est écrit dans l'Ecclésiaste que le riche ne profite pas de sa richesse. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses d'une manière tellement juste que l'argent, même si c'est une bénédiction, l'argent ne rend pas un homme heureux. Ce qui rend un homme heureux, c'est le pardon des péchés et la paix. Alors vous voyez, je pourrais articuler là-dessus, mais je voudrais introduire avec cette pensée pour que nous comprenions une chose, que même si Dieu est amour, Dieu est saint. Dieu est juste. dans toutes ses voies. Et les jugements de Dieu, on l'a entendu dans la deuxième prophétie, les jugements de Dieu sont justes, tous justes. Et vous avez vu ce qui se passe. Mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quel état vous êtes, je ne sais pas quelle analyse vous faites des choses qui se passent, chacun certainement on a notre façon, on regarde les actualités, on écoute telle information, chacun certainement nous n'avons pas la même analyse, notre degré de piété certainement détermine une analyse plus ou moins différente des choses qui se passent aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui n'est que focalisé sur l'amour de Dieu ne va pas voir les incidences de la colère de Dieu qui vient sur la terre. Car Dieu a fixé une année de grâce, mais il ajoute dans le prophète Ésaïe qu'il a fixé aussi un jour de la colère. Vous le savez, ça? Vous l'avez lu? Vous l'avez lu. C'est écrit, Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes, pour guérir, pour consoler, etc. Et en même temps, il dit pour apporter une année de grâce et un jour de colère. L'année de la grâce est en train de se terminer. Et la colère de Dieu vient. Elle vient, c'est écrit, elle vient sur les fils de la rébellion. On va lire certains textes, ça ne contredit pas ce que je viens de lire en introduction, ça complète l'équilibre biblique, à savoir que Dieu est amour, mais que Dieu est aussi un feu dévorant. Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 3, je voudrais que vous notiez ces textes, mais pourquoi ne pas les relire? Ça aussi, vous pouvez le faire peut-être avec vos enfants. Et cette prédication, je vous assure, écoutez-moi bien, elle s'adresse surtout aux chrétiens rétrogrades, aux chrétiens qui vivent dans l'illusion, car il y en a beaucoup. Si vous avez écouté le premier don spirituel, il rappelle à l'Église, aux Églises, qu'il y a des chrétiens qui pensent être des adorateurs, mais qui ne sont pas des adorateurs. Parce qu'on est un adorateur quand on obéit. Même si vous ne prononcez pas le mot adorer de toute la semaine, à partir du moment où vous obéissez de cœur à la parole, vous êtes un adorateur. Mais à partir du moment où on n'obéit pas à Dieu, on peut dire « je t'adore, je t'adore, je t'adore » en boucle, on n'est pas des adorateurs. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de verbe que l'on utilise, c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Et Éphésiens chapitre 5, regardez, nous voyons au travers de ces textes ce qu'il en est. Que la colère, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous. Vous voyez, c'est même pas, là, même pas dans la pratique, il ne faut même pas en parler. Vous voyez, par exemple, il y a des chrétiens qui parlent librement de sexualité, tout ça. Alors, je pense que dans le cadre d'une étude biblique, on peut en parler. Ou, ça peut se présenter. Je suis en train de lire le livre de Cantique des Cantiques, et on voit bien que dès le départ, on voit qu'il y a cette intelligence de faire connaître les besoins. Quand la Sulamite dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, on voit bien dans ce texte de suite que, bon, c'est spirituel, d'accord, mais c'est quand même aussi la preuve qu'il faut faire connaître ses besoins physiques à la personne que l'on aime, au conjoint que l'on aime, dans le cadre du mariage. Mais il y a des choses, on ne devrait même pas en parler, parce que c'est impur. Je n'ai pas dit que la sexualité était impure. Qu'ils ne soient même pas nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien. Il faut le savoir, ça, oui, sachez, Dieu veut que l'on sache. Aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Écoutez, s'il y a des choses difficiles à comprendre, moi, il me semble que ça, c'est pas compliqué. Si je vis dans la débauche, si je vis dans l'idolâtrie, si je vis dans l'impureté, je ne suis pas prêt. Vous le voyez comme moi, ça ne peut pas être plus clair. C'est répété par tous les apôtres et par le Seigneur Jésus. Que personne ne vous séduise par de vains discours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut vivre dans le péché et qu'on va être sauvé. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Et il y a des gens qui se disent mariés. En plus, il y a des pasteurs qui sont super bien informés. Ils ont marié des gens, dans l'église, alors qu'ils ne sont même pas passés par la mairie. Et si vous voulez les articles du code pénal, je vous les donnerai parce que je les ai recherchés. Un pasteur, un imam, un prêtre, un rabbin, etc. n'ont pas le droit de marier quelqu'un dans une église sans qu'il ne soit passé par la mairie. C'est passible de prison et d'une amende. Mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point le Seigneur est proche. Vous le croyez, frères et sœurs? Jésus va revenir. Le moment où il va revenir ne laissera aucune opportunité à quelqu'un de pouvoir se préparer. Parce qu'il revient en un clin d'œil, le temps que les morts en Christ soient enlevés, nous serons enlevés dans la même foulée. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts. Oui, Dieu est amour. Et je vais vous dire, je peux vous prêcher sur l'amour de Dieu tant que vous voulez. Mais moi, je dois aussi vous avertir, parce que l'apôtre Paul le dit par les Philippiens, il dit, Paul dit aux Philippiens, mais je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. C'est pour le salut, c'est pas pour vous ennuyer avec des vaines redites. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Et nous, ça nous brise le cœur. Et moi, ça me brise le cœur, d'autant plus que je sais qu'en grande partie, ce sont les pasteurs qui n'ont pas fait leur travail pastoral. Il est écrit dans Ézéchiel, on peut le lire, je sais peut-être, je ne sais pas si c'est votre livre préféré, mais en tous les cas, moi, oui. Celui-là, oui. Ézéchiel, regardez ce que Dieu dit dans Ézéchiel aux pasteurs. C'est quelque chose de terrible, ça amène la malédiction sur le pays. Alors, il y a des textes comme ça, ça fait peur, parce qu'ils nous montrent que l'iniquité n'est pas venue à cause du péché, le péché il est là, l'iniquité elle est venue à cause des prophètes. Vous le savez ça? Est-ce que vous réalisez? Non mais c'est pour les pasteurs, ça fait flipper comme on dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'iniquité s'est répandue dans les pays à cause des prophètes. Normalement, l'iniquité, elle devrait se répandre comment? Comment elle s'est répandue, l'iniquité? Elle se répandrait par les iniques. Et pourtant, ce n'est pas les pécheurs qui ont répandu l'iniquité, c'est les prophètes. C'est grave, hein? Ézéchiel 22, regardez, verset 26. Regardez, mes frères, je vous dis ça pour vous expliquer que vous n'êtes pas entièrement responsable de la légèreté qui est installée dans l'Église, dans l'apostasie qui est installée dans l'Église. Nous sommes responsables et nous devons redresser le niveau, la barre, comme on dit. Ézéchiel 22, verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi. » Je peux vous dire que quand un pasteur enseigne la sécurité éternelle, il a violé la loi de Dieu. Parce que le salut, on peut le perdre, croyez-moi. Il profane mes sanctuaires. Il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang. La suite est catastrophique. Ils perdent les âmes. Pour assouvir leur cupidité. Alors vous lisez ces textes, et vous en trouvez d'autres, et trop, il y en aurait presque, on ne peut pas dire trop parce que Dieu l'a voulu, mais pour moi il y en a trop, dans le sens où c'est la preuve qu'il y a un égarement parce qu'on n'a pas dit aux gens certaines choses. Aujourd'hui on baptise des gens qui sont dans le concubinage. Vous le savez? Moi j'entends de plus en plus. J'entends de plus en plus. Mes frères et sœurs, on prend le baptême quand on a pris la décision d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Et moi, je vous assure, mes frères et sœurs, je vois que l'enlèvement de l'Église se profile à une allure totale et que beaucoup de chrétiens se contentent de religiosité, de l'à peu près, de l'illusion, de l'aveuglement. Plein de chrétiens sont dans l'illusion. Je ferai une prédication à la rentrée, parce que là il manque beaucoup de frères et de sœurs, sur l'illusion. Il y a des frères qui ne se rendent pas compte. Lisez les proverbes et vous allez vérifier ce que je vous dis. Cette semaine, vous allez le vérifier, si vous le faites, le nombre de chrétiens qui sont tout le temps en vrac avec cette parole, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je ne vais pas au culte, Dieu regarde au cœur. Je ne lis pas ma Bible, Dieu regarde au cœur. Non mais sérieusement, si vous pensez qu'avec cette affaire-là, vous allez vous préparer à rencontrer Dieu, moi je vous dis qu'avec ce genre d'excuses, vous ne serez pas prêts quand le Seigneur Jésus va revenir vous chercher. Et pourtant Dieu est amour. Et pourtant, Dieu ne cesse pas de nous appeler. Dieu ne cesse pas de nous d'insister. Je prêchais jeudi soir sur ce texte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il y a tout le temps le côté grâce et le côté difficile. Le côté grâce, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu est toujours prêt à recommencer. Gloire à Dieu. Le côté si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'entendent plus la voix de Dieu. Ils entendent des sermons, ils veulent entendre un bon sermon, mais croyez-moi, ils ne sont pas capables de dire « Mais Seigneur, montre-moi à moi ce que tu as à me dire. Montre-moi-le. » Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations que Dieu vous parle vraiment ? Avoir cette honnêteté, là il y a un verset qui me vient à l'esprit, quand, vous voyez, c'est quand Paul se présente devant Agrippa, le roi Agrippa, pourtant c'est un roi. Vous savez, Paul qui parlait à un clochard ou à un roi, je veux dire, c'était toujours pareil. Et dans la discussion, Paul dit à Paul Agrippa, il dit, mais Paul, roi, crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Et Agrippa va répondre, tu vas me persuader de devenir chrétien. Mais je ne sais pas s'il y a des rois dans l'Église. Mais est-ce que vous croyez aux prophéties ? Est-ce que vous croyez aux prophéties ? Vous les croyez à toutes ces prophéties qui sont dans la Bible ? Vous croyez que Jésus revient ? Vous croyez que la colère de Dieu vient ? Vous avez entendu le don spirituel ? Jésus revient. Est-ce que tu es prêt ? Moi, mon travail, c'est de t'aider à te préparer. Et je m'adresse à nos enfants, à vous qui n'êtes pas baptisés. Les adolescents, je ne sais pas si vous vous rendez compte le désarroi qui va arriver lorsqu'un matin, les gens vont se lever. Enfin, ça va se passer dans la nuit normalement, parce que c'est écrit dans cette nuit. C'est écrit dans cette nuit ou non ? Oui, c'est écrit. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus reviendra la nuit ou est-ce que ça veut dire que ça sera dans les ténèbres ? Parce que le monde est dans les ténèbres. Nous, on ne peut que nous réjouir. Est-ce que vous vous réjouissez ? Je reviens sur ce que j'ai dit dans les annonces. Est-ce que vous vous réjouissez du salut de votre âme ? Est-ce que vous pouvez dire, mais quelle grâce ! Quelle grâce d'être sauvé ! Ah oui, je peux vous dire, c'est une grâce. Mais moi, mon souci, et je sais que ça veut la volonté de Dieu, parce que moi, je peux vous dire, des sermons, j'en ai d'avance, et je sais très bien que j'aurais pu vous apporter des choses que vous ne connaissez pas, qui sont très, très, très intéressantes pour le cerveau, mais je peux vous dire que dans les temps où nous sommes, ce n'est pas notre cerveau qui a besoin d'être nourri et enrichi, ce qui a besoin d'être nourri, c'est notre âme et notre cœur. Et de pouvoir dire, oui, en sortant de l'église tout à l'heure, il faut que vous puissiez dire, voilà, je suis prêt. Et je ne suis pas affolé par ce qui se passe. Parce que laissez-moi vous dire que ça dégringole et que c'est comme les douleurs de la femme enceinte, c'est écrit. Les contractions s'accélèrent au fur et à mesure que l'enfant se présente. Et de la même manière, vous avez vu comment les choses s'accélèrent. Et ça va s'accélérer. Les semaines qui vont arriver, ça va s'accélérer encore plus. Pourtant, vous avez vu tout ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madère ? Parce qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas communiquées. Le jour de l'Assomption. Fête qui n'est pas biblique, je vous rassure quand même. Le jour de l'Assomption, il y avait des croyants qui étaient en train d'adorer une vierge sur une île, à Madère. Vous pouvez le taper sur Google Actualité. Et alors qu'ils étaient en train d'offrir des bougies à cette idole, un chêne vieux de 200 ans est tombé d'un coup. 13 morts, 50 blessés. J'ai lu ça et j'ai lu les commentaires. Vous savez, parce que les gens peuvent faire des commentaires. Je ne sais pas comment ça marche, mais je sais qu'il y a des commentaires très, 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 très spirituels. Et comment les gens parlaient de Dieu. Mes frères et sœurs, sans que nous nous en rendions compte, consciemment, inconsciemment, volontairement, etc., ou pas, les gens sont en train de choisir. Il y a 50 ans, 60 ans en arrière, moi, quand je me suis converti, il y a 37 ans, j'ai lu plein de choses qui se sont passées par rapport aux églises, par rapport aux religions, par rapport aux mouvements. Je ne savais pas que je serais pasteur, mais ça m'intéressait. Et je voulais savoir comment les gens réagissaient quand il y avait un cataclysme quelque part. Et il y a 50 ans, 60 ans en arrière, quand il y avait une grosse épreuve qui touchait un pays, le lendemain ou le soir même, toutes les églises étaient pleines. Et les gens allaient demander pardon, se repentaient, avaient peur, etc. C'était religieux, c'était spirituel, c'était superstitieux, qu'importe. En tous les cas, il y avait une réaction religieuse. D'accord ? Quand même, il y avait des gens qui disaient, oui, le Seigneur peut intervenir, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, pardon. Ça s'est passé comme ça il y a 50 ans. Cette semaine, vous avez vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Les gens, il faut s'amuser. Il faut faire la fête. Il faut continuer à se réjouir. Les gens sont en train de se positionner. Le problème, moi, des pêcheurs, ça, bien sûr que j'ai le fardeau des âmes et que j'ai le fardeau de vos âmes, mais moi, je suis préoccupé par l'édification de l'Église. Parce que la présence de Dieu se manifeste dans une Église quand l'Église vit dans la sainteté. Ne nous imaginons pas que c'est en sauvant des pêcheurs que l'Église va se sanctifier. C'est en sanctifiant l'Église que l'on sauvera des pêcheurs. Donc, ce qui est important, c'est l'évangélisation, c'est l'édification de l'Église. Et de comprendre que tout ce qui se passe est contrôlé par Dieu. Vous le croyez? Ça va loin, cette affaire. Quand je vous disais tout à l'heure que les pasteurs perdent les âmes, cette semaine, je méditais parce que j'ai à cœur de méditer tous ces textes. Quand David a été éprouvé, dans un texte, il est dit que c'est Satan qui l'a excité. Dans un autre livre, il est dit que c'est Dieu qui l'a éprouvé. Qu'importe. Dieu contrôlait tout ça. Et qu'il a voulu faire le dénombrement. Vous savez, d'Israël. Il était arrivé à la fin de son règne, il était fier d'avoir été un homme de guerre, c'est clair qu'il y avait de quoi en même temps. Et il va faire le dénombrement, il est poussé, c'est une tentation, le diable y met son grain de sel, Dieu l'éprouve. Et son général en chef lui dit, écoute Joab, il lui dit, écoute David, puisse Dieu rendre ton peuple 100 fois plus nombreux, ne compte pas, ça, Dieu veut pas. Et lui il l'a fait. Vous savez ce qui s'en est suivi? Dieu va se présenter et va lui dire, voilà, je te propose trois fléaux. Vous connaissez cette histoire? Et bien sûr, David, intelligent, va prendre le fléau qui dépend le plus de Dieu. Et Dieu va envoyer la peste en Israël. Et il va quand même mourir 70 000 hommes à cause d'un roi qui s'est laissé piéger. Et ce roi en plus s'appelait David. Si David s'est fait avoir, laissez-moi vous dire que nous pouvons nous aussi nous faire piéger. Tout ça s'écrit pour notre instruction. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que vous compreniez que dès que nous avons des responsabilités, quelles qu'elles soient, dans le cadre de la famille, un homme doit faire le culte à sa famille. Oui ou non? Est-ce que vous comptez que sur les animateurs de l'école du dimanche, qui ont les enfants une heure par semaine, pour s'occuper du salut de vos enfants? Vous n'êtes pas sérieux si vous en êtes là. Mais chacun, moi j'ai ma responsabilité en tant que pasteur dans cette assemblée, par rapport à ceux qui m'écoutent. Et je dois être archi sérieux. Et il faut bien comprendre une chose, Dieu est amour. Et que quoi que ce soit que vous compreniez ou pas, Dieu est plein d'amour. Mais Dieu enlève sa main. Et je vous ai parlé de ce qui s'est passé sur l'île de Madère. J'avais presque envie de faire la liste de ce qui s'est passé cette semaine. Ça fait peur. Et tout ce qu'on ne sait pas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben on va le lire. On va le lire on va lire deux ou trois textes. Amos. Amos chapitre 3, verset 7. Lisons-le, mes frères et sœurs. Lisons-le consciencieusement. Ce sont des prophètes qui ont écrit ces choses, inspirés par Dieu. Non pas pour qu'on ait peur, la Bible dit « ne soyez pas effrayés, que votre cœur ne soit pas troublé ». Si vous êtes troublé et si vous êtes effrayé, c'est que ou vous n'êtes pas en paix avec Dieu, ou alors vous n'êtes pas converti. C'est l'un ou l'autre. Amos chapitre 3, verset 6. C'est dans les petits prophètes, c'est un peu loin à chercher. Je vous le lis, ne vous laissez pas disperser par la recherche. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Vous y êtes? Cherchez-le. Mais regardez quand même, ça vaut la peine. Amos 3, verset 6. 6 et 7. Arrive-t-il malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Question, hein? Le verset 7 est merveilleux, parce qu'il prouve une chose, c'est qu'il y a des gens à qui Dieu se révèle. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voulez que Dieu vous révèle ses secrets? Eh bien, mes frères et sœurs, cherchons une communion plus intime avec Dieu, et le Seigneur se révélera. Un autre texte dans les Lamentations de Jérémie, un petit peu avant. Regardez bien. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 35. Ce sont des textes peut-être que nous ne lisons pas souvent, mais quand même qui méritent la peine d'être médités et qui ne sont pas du tout en contradiction avec mon introduction. Jérémie, chapitre 3, verset 35. Quand on viole la justice humaine, à la face du Très-Haut. Parce que je peux vous dire que on a violé la justice. Vous avez, Nicolas a pris le texte de Romains 2, je vous encourage à lire Romains 1 et Romains 2 cette semaine, et vous allez voir combien les hommes, par leur loi inique, ont violé la justice. Mais quand je vois aujourd'hui que des chrétiens acceptent toutes ces lois contre nature, laissez-moi vous dire, que les pécheurs l'acceptent, moi, ça me va. Mais quand vous voyez les chrétiens qui acceptent des lois contre nature, moi, je vous dis, ils ne sont pas nés de nouveau, ça c'est sûr. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 35. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut et qu'on fait du tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira? Alors, je ne sais pas ce que vous vous dites, mais en tous les cas, il faut répondre. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et regardez la question qui suit. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et si vous avez à vous plaindre, plaignez-vous de vous, de vos problèmes. Et ce problème-là, je l'ai, je le règle. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous aviez, je suis sérieux, il n'y a pas de cynisme, si vous avez à vous plaindre, qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans ma vie? Et ça plaît à Dieu. Que chacun se plaigne de ses propres péchés, de ses propres péchés. Mais que personne ne pense qu'il est habilité à comprendre ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en Espagne, etc., etc. Nous ne comprenons pas ces choses. Parce que nous regardons les choses. Regardez un peu avant encore dans Ésaïe 22. C'est important, mes frères et sœurs. Dans Ésaïe 22, au chapitre 11, chapitre 22, verset 11. Mes frères et sœurs, ce sont des choses archi sérieuses. Dieu est amour et Dieu règne. Vous le croyez que Dieu règne au siècle des siècles? Il règne. Ésaïe 22. Alors c'est sûr qu'ils allaient être dévastés par l'ennemi, comme la prédicatrice l'a dit tout à l'heure dans son au revoir. L'ennemi allait attaquer Israël. Regardez, on va lire ce qui nous intéresse, tiens. Pour compléter la prédication de Caroline, Ésaïe 22, verset 11. « Vous faites un réservoir entre les deux murs, pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. » Dieu leur dit, mais repentez-vous. Et eux, non, ils veulent de la joie. Eux, ils veulent s'amuser. C'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Là, ce n'était pas qu'au niveau d'Israël. C'est exactement ce qui se passe. Dieu appelle ceux qui ont besoin de repentance. Si vous n'en avez pas besoin, continuez votre marche sereine avec Dieu. Mais si ça ne va pas, si vous viviez dans le péché, dans l'impudicité, dans la légèreté, dans la tiédeur, mais repentez-vous. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et je peux vous dire que l'Église fera d'énormes progrès. Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Nous, on voit les choses. Le chrétien lambda, excusez-moi l'expression, le chrétien superficiel, lui, voit les choses. Je ne comprends pas, Seigneur, et pourquoi? J'ai peur. Mes frères et sœurs, le chrétien qui est prêt, il n'a rien à craindre. Puisque tu as gardé ma parole, je te garderai. Dieu est formel, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui dit aux chrétiens de Philadelphie, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier éprouver les habitants de la terre. La colère, elle vient, ce n'est pas du tout incompatible avec l'amour de Dieu qui est incommensurable, la colère de Dieu, elle vient, elle n'est pas là. Ce que nous voyons par les informations sont les prémices de la colère. Ce n'est rien, mes frères et sœurs, et je suis sérieux, ce n'est rien à côté de ce qui va arriver une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu, la colère sera là. Elle va venir d'une manière abrupte. Ce que vous voyez est très, très, très affolant, mais ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Les conditions dans lesquelles l'Église va être prise vont être des conditions normales. Quand Jésus dit que du temps de Noé, les hommes bâtissaient plantait, buvait, mangeait, il en sera de même. On mange, on boit, on marie les enfants, etc., on bâtit, etc. Les conditions de vie seront normales lorsque Jésus va revenir chercher l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sa main est là, la paix de Dieu est là. En tous les cas, la paix, elle est dans le cœur des chrétiens. Si vous n'avez pas la paix, il y a un travers à corriger. Faites-le, le Seigneur va vous aider. On peut la perdre, la paix. Qui n'a jamais perdu la paix? Levez-vous et venez à ma place. On a tous, à un moment donné, parce qu'on a eu un défaut, on a eu un écart, et on a perdu la paix. La Bible dit, bien, recherchez la paix. Et poursuivez la paix. Et qu'est-ce que Dieu fait? Et bien, il la redonne. Alléluia. Quand Jésus va revenir, les conditions seront exactement comme celles que nous sommes en train de vivre. Nous pouvons acheter, nous pouvons bâtir. Vous avez vu comment ça sera une fois que l'Église va être enlevée? Regardez. Moi, je vous encourage à demander au Seigneur qu'il nous donne du discernement. Est-ce qu'on peut demander à Dieu du discernement? Est-ce qu'on peut, vous savez, dans le monde, les gens sont ingénieux au mal. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de l'ingéniosité au bien? Ben oui. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, l'Église est enlevée, a été enlevée, et les sceaux vont s'ouvrir. Ces sceaux amènent la colère de Dieu. Je ne sais pas, je vais vous poser une question. Est-ce que vous comprenez l'Apocalypse? Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que c'est compliqué? Dans l'Apocalypse, chapitre 6, cette fameuse colère dont l'apôtre Paul parle presque dans tous les livres, oui, presque dans toutes ses épîtres, il en parle. Paul parle de la colère qui vient. Là, elle ne vient pas, elle est déjà venue. Apocalypse 6, mais les chrétiens prêts ne le verront pas ça. Apocalypse 6, verset 16, il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, comme et tous les hommes, hein. C'est écrit tous les hommes au verset 15. Donc ça prouve bien que les gens savent plus ou moins qu'ils rejettent Dieu. Croyez-moi, même les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Eh bien, ceux qui ont été épargnés. Sans faire de l'humour, ceux qui seront sauvés sont épargnés de la colère. Regardez, au chapitre 6, il est indiqué, au troisième sceau, il est parlé d'une famine qui va venir. Apocalypse 6, verset 5. Regardez bien le niveau de famine. Il y a des famines aujourd'hui, il y a des gens qui galèrent matériellement, d'accord? Regardez le niveau sévère de la famine sur la terre, parce que là, ça touche la terre. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais, et voici, parit un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier. » Alors, peut-être que ça ne vous dit rien. Mais voilà les conditions dans laquelle les hommes vont se trouver lorsque Jésus aura enlevé l'Église. Il faudra une journée de salaire pour acheter un kilo de blé. Parce qu'une mesure, c'est un litre. Donc à peu près un kilo de blé, ça a la valeur d'un litre. Je ne sais pas combien vous gagnez par jour, mais au niveau mondial, il faudra travailler une journée entière pour acheter un kilo de farine. Est-ce que vous avez compris? C'est écrit comme ça. Et tout n'est pas écrit. On parle, moi je vois, j'ai lu plein de livres. Il est parlé des fléaux, des coupes, des trompettes. Mais il est parlé des tonnerres. Est-ce que vous savez qu'il est parlé des sept tonnerres? Les sept tonnerres, je vous le dis parce que des fois les gens me disent, mais non, il n'y en a que trois. Regardez avec moi. Je vous le dis parce que franchement, je veux vous encourager à lire la parole de Dieu. Alors que je ne me trompe pas. Apocalypse 10. Et regardez bien, mes frères et sœurs, verset 2. Apocalypse 10, verset 2, « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la terre, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, etc. Vous le lirez. Donc il y a des choses que Dieu n'a même pas voulu que l'on sache. Déjà, il y a beaucoup de choses que l'on sait. Ces choses-là sont suffisantes. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Le premier verset de la Genèse pourrait être commenté par une Bible épaisse comme ça. Dieu n'a voulu que nous sachions que ce qui est important. Mes frères et sœurs, la colère de Dieu, elle vient. Tout ce qui se passe correspond aux prémices de la colère. Comme les douleurs de l'enfantement s'accélérant, eh bien, prouvent qu'un enfant va venir au monde. Le Seigneur revient chercher l'Église. Et je m'adresse à tous les frères et sœurs, à vous bien sûr qui êtes ici dans l'Assemblée, mais aux milliers de gens, car il y a des milliers de gens. L'autre jour, il y a un pasteur du Gabon qui m'a écrit. Il y a un pasteur du Gabon qui m'a écrit, je le mets chez moi. Et il m'a dit, Monsieur Gau, je voulais que vous sachiez quelque chose. Tous les jours, à Libreville, il y a 18 500 personnes à 20 000 personnes qui vous écoutent. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que Dieu bénit sa parole et que les gens, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, je sais très bien que ce message ne s'adresse pas qu'aux 200 personnes qui sont là ce matin. Ce message s'adresse à tous les chrétiens qui veulent entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? L'Esprit Saint dit à l'Église de Jésus-Christ qu'il revient. Il revient nous chercher. Les conditions vont être terribles. La paix va partir de la terre. Regardez avec moi, on n'a pas lu. Je vous l'ai lu la dernière fois, mais ça ne fait rien. On le relit, Apocalypse chapitre 6, verset 2. Regardez bien, c'est le début. C'est le début de la colère après l'enlèvement de l'Église. C'est des choses archi sévères. Et je comprends pourquoi Paul a posé la question à Agrippa. Crois-tu aux prophètes? Crois-tu aux prophéties? C'est une prophétie, ça. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et un autre cheval roux, et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu? Vous entendez? Vous voyez? C'est rien. Vous allez me dire, Monsieur Gau, qu'est-ce que vous êtes insensible? Peut-être. Mais moi, je vous dis que ce qui se passe n'est rien à côté de ce qui va arriver. Là, par la grâce de Dieu, et c'est un fait, si vous marchez dans l'obéissance, parce qu'il est dit, Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu revient pour punir ceux qui n'obéissent pas. Donc il parle des chrétiens. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il vient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et ceux qui n'écoutent, ne connaissent pas Dieu. Donc, aujourd'hui, si vous marchez avec Jésus-Christ, si vous marchez par la foi, couvert par le sang, les anges vous gardent, alléluia. Vous pouvez sortir. C'est vrai qu'on peut avoir un pépin, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut avoir une épreuve? Bien sûr. Ne jouons pas les malins. Mais d'une manière générale, Dieu vous garde. Il vous protège. Il s'est engagé. Si vous le connaissez, vous le savez. Jésus-Christ s'est engagé, non pas qu'à sauver votre âme, mais sur la terre, à vous garder du mal, de l'adversité, de certaines adversités sévères. Est-ce que vous le croyez que Dieu vous garde? Est-ce que vous pouvez vous identifier au psaume 4 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. » Vous pouvez vous endormir ce soir en paix. Le sang de Jésus vous garde. Le Saint-Esprit vous conduit. Les anges vous protègent. Il y a des milliards d'anges. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Les anges de Dieu nous gardaient même avant que nous le connaissions. Alors on peut dire un petit merci de plus. Mes frères et sœurs, la colère de Dieu, elle vient. Ce qui se passe sur la terre, je le répète, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas du tout conscients qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont peur du lendemain. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne le permette? Ce que nous voyons, vous avez dit, mais c'est Dieu qui... C'est pas Dieu. Dieu retire sa main parce que les hommes ont fait le choix d'aimer les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Et il nous sera fait selon notre foi, il nous sera fait selon nos choix. C'est Paul qui dit, on va terminer avec ce texte, c'est Moïse, enfin c'est Dieu qui dit par le biais de Moïse. Lisez ce texte avec moi dans le livre du Deutéronome. On va terminer avec ce texte. J'ai beaucoup, beaucoup de textes à vous lire, mais je vois que l'heure a tourné. Et mes frères et sœurs, c'est un choix. Quel choix vous faites? Vous qui êtes ici cet après-midi, vous qui n'êtes pas baptisés, vous croyez que moi je vais vous pousser au baptême? Vous croyez que moi je suis payé pour les baptêmes? Moi, je suis appelé par Dieu à vous prêcher la croix. Et que si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ et si vous ne marchez pas dans la sainteté, vous ne serez pas prêt quand Jésus va revenir nous chercher. Voilà ma responsabilité. Si vous ne voulez pas prendre le baptême, ne le prenez pas. Moi, ça ne me gêne pas. C'est entre vous et Dieu. Mais le baptême, je le répète, est la preuve que vous avez fait un choix. Parce qu'il y a des gens, oui, il y a des gens, on le voit. L'autre fois, je vous parlais de ce pasteur. Ça m'a fait pitié. Une chrétienne m'appelle, c'est une maman qui m'appelle. Elle m'a dit, Monsieur Gauche, je vous écoute sur Internet, j'ai une question à vous poser. Il y a le pasteur qui a été voir ma fille ou mon fils, ça fait 3-4 fois. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Alors, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Il lui a dit, tu sais, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de baptême dans l'église. Si tu prenais le baptême, ça ferait plaisir à l'église. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'en pense que le pasteur, il va pas bien. Est-ce que vous vous rendez compte, il le pense, mais tellement les pasteurs ne vont pas bien. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise pour avoir un baptême? Il ferait mieux de s'occuper de la présence de Dieu que de calculer le nombre de baptêmes qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu. Mes frères et sœurs, moi je ne vous pousse pas, mes amis, les jeunes, les ados, vous qui venez depuis des années et qui avez eu le privilège, et je le dis avec ferveur, le privilège de naître dans une famille chrétienne. Croyez-moi, c'est une grâce. Vous qui avez dit, ouais, si j'avais pu naître dans un foyer, un pays, j'aurais pu aller en boîte de nuit, j'aurais pu faire ce que je veux. Mais vos parents, croyez-moi, c'est Dieu quand même qui vous a placé dans le foyer, parce que je pense que ça, c'est Dieu qui doit le contrôler quand même. C'est Dieu qui vous a fait naître dans un foyer chrétien. Mais quel est le choix que vous faites après cette exhortation, après ce rappel des prophéties? Est-ce que vous croyez aux prophéties? Oui, Dieu est amour, mais vous devez faire un choix. Et la Bible, l'Apocalypse termine avec un choix, que celui qui est saint se sanctifie et que celui qui se souille, se souille. Deutéronome chapitre 30, terminons avec ce passage, verset 11. Pendant que Monsieur Delon cherche le cantique, je marche vers ma patrie. Deutéronome 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces. Vous y êtes? Et hors de ta portée. Vous voyez, tout le monde peut se convertir. Relisons-le. Mais relisez-le peut-être ce soir avec vos enfants, avant d'aller au lit. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre? Afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre? Afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui, 20 août, 2017, je suis sérieux, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je vous rappelle que c'est Dieu qui parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi, et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Alléluia. Choisis la vie. Ce matin, Dieu, dans sa bonté et son amour incommensurable, sa vérité, sa sainteté et ses jugements qui sont justes, nous rappelle que l'année de la grâce est terminée, que le jour vient de la colère et que ceux qui n'obéissent pas connaîtront la colère de Dieu. Ils auront la possibilité de se repentir. Mais laissez-moi vous dire que ça va changer de registre et que les gens qui voudront être sauvés pendant la grande tribulation devront le payer de leur vie. Ils seront décapités. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Mais tous, ne venez pas à la sortie me dire, monsieur Gault, vous avez trouvé ça. Je crois l'avoir lu dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis est biblique. Oui, des gens pourront être sauvés après l'enlèvement de l'Église, mais ils vont vivre quelque chose de terrible. Parce qu'il n'y aura plus la paix, il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus l'Église. Les gens vont s'égorger les uns les autres dans toutes les rues du monde entier. Vous, les gens s'endormiront dans une frayeur pas possible. Mes frères et sœurs, la vie sera impossible. Parce qu'on ne pourra plus acheter, mis à part si vous travaillez un kilo de farine par jour, ça ne fait pas beaucoup. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'être pris? Et Dieu vous dit, mais choisis la vie. Choisis la vie. Maintenant, aujourd'hui, je le répète, 20 août 2017, choisis la vie. Vous qui n'êtes pas baptisé, je vous le dis, je vous en supplie. C'est écrit, monsieur Lafayette avait mettre ce verset, le haut du verset, c'est « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est Dieu qui dit ça. Pour que Dieu dise « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu », il faut qu'il y ait une bonne raison. Vous avez compris ? Si le président de la République supplie un clochard de se réconcilier avec lui, le président, en vérité, il n'en a rien à faire. C'est parce que ça va mal se passer s'il n'est pas réconcilié avec. Mes frères et sœurs, il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis en paix. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je suis en paix avec toi. Je suis couvert par ton sang, tes anges me protègent, combien, je ne sais rien, mais ils me protègent. Un, ça suffit, parce qu'il y en a un dans l'Ancien Testament, il a fait la fête à 185 000 Syriens dans la nuit. Un ange, je pense, doit vous suffire. Que son nom soit béni. Choisis la vie. Mon frère, vous qui êtes pas, je le répète parce que je suis poussé à le faire. Si vous n'êtes pas baptisé, moi je vous conseille, pas de vous prendre le baptême, de choisir la vie, de choisir le calvaire. Parce que Dieu est amour. Alléluia. On lui répond. On va baisser les yeux simplement. Tous. Et on lui répond en un mot, en une phrase. Mais là, c'est là qu'on peut dire oui, Dieu voit mon cœur. Est-ce que tu peux répondre à Jésus? Pas haute voix, ça regarde personne. Anne, elle priait dans son cœur. Et je peux vous dire que ça a payé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dans son cœur parle à Dieu en ce moment? Répondez-lui. Je le répète, vous qui n'êtes pas baptisé ou vous qui avez pris un baptême pour prendre le baptême, est-ce que vous pouvez dire « Le sang de Jésus est sur ma vie. Le Seigneur Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. » Ah ouais, heureux. Dieu veut vous sauver, la porte est ouverte, mais je pense très humblement, que la main du Seigneur est sur la porte. Vraiment, je le pense. Et que la porte va être fermée par le maître de la maison. Quel drame. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tous ici, nous pouvons dire « je suis prêt » Si vous aimez l'impudicité, l'impureté, les saletés, si vous aimez les choses mauvaises, la sexualité débridée à la télévision, tout ça. Si vous aimez ces choses, eh bien, aimez-les. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je vous le dis, vous ne serez pas prêts quand la trompette sonnera. Nous sommes devant un Dieu plein de sainteté et plein d'amour. Répondons-lui simplement. Notre Père, si tu ne nous as pas tout dit, tu nous as révélé tout ce que nous avions besoin de savoir. Merci. Merci pour ta parole. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, merci Seigneur. Pour tous tes conseils, pour toutes tes promesses et pour toutes les prophéties. Du fond du cœur, Seigneur, merci. Nous voulons faire partie de ceux qui vont te rencontrer bientôt. Seigneur, si cela nous dépasse quelque part, nous savons que tu vas venir chercher l'épouse qui s'est préparée. Alors que cette exhortation contribue à ce que tous nous nous préparions mieux, que nous soyons tous revêtus de vêtements blancs et que notre lampe soit pleine de ton huile. Seigneur, merci pour ta parole, que les prochaines réunions contribuent au salut d'hommes et de femmes, que l'évangélisation cet après-midi contribue à ce que des hommes soient épargnés de la colère qui vient sur la terre. Merci pour la grâce, Seigneur, tes jugements sont justes et nous te remercions de nous avoir sauvés de la colère par ton sang au calvaire. Merci, Seigneur Jésus.